Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jean-Pierre Siméon, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir de vous recevoir pour parler de ce nouveau livre de poésie à venir, suivi par Le peintre au coquelicot. Vous êtes un poète et dramaturge français. Vous avez eu des prix littéraires prestigieux pour vos œuvres, entre guillemets, le prix Guillaume Apollinaire en 1994 pour Le sentiment du monde, le prix Max Jacob en 2006 pour Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Vous avez été directeur artistique du Printemps des poètes durant plus de 10 ans. Et vous succédez à André Velter à la direction de la collection prestigieuse Poésie Gallimard. Ça, c'était en janvier 2018. Vous êtes toujours donc à la tête de la collection.
Effectivement, oui. Alors, j'ai dirigé le Printemps des poètes même pendant 16 ans, vous voyez.
Ah, bah alors.
C'est une petite.
Ils ont dit un peu plus de 10 ans, donc on est encore dans les cordes. 16 ans. Alors, quel est le livre qui annonce ou qui précède dans l'esprit ce livre à venir? Est-ce que ce n'est pas Levez-vous du tombeau, à mon sens?
Oui, vous avez raison. Il est dans la droite ligne de Levez-vous du tombeau, mais même de celui qui précédait encore, qui était publié à Chêne, qui s'intitulait Politique de la beauté, qui est une réflexion toujours sur la place et l'urgence, la nécessité urgente de la poésie dans l'espace public, dans la communauté que nous formons. Vous savez, ma grande conviction, c'est qu'il faut absolument oublier que l'idée habituelle de la poésie qui en fait un ornement, un enjoliveur, et qu'il s'agit de la prendre au sérieux et de la mettre au cœur de notre pensée même, de la pensée, on va dire, même sociale et politique. Vous voyez, je crois que la poésie fait entendre un diapason dont on n'a pas assez pris le son, vous voyez, la justesse, le point qui pourrait nous orienter autrement, notre façon d'orienter nos vies.
Alors, la poésie, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Pour qui? Quelle est son actualité? Comment est-ce que, pas son étymologie, comment est-ce qu'on en est venu depuis l'art oratoire de la rhétorique jusqu'à la poésie rythmée, scandée avec un cahier de structures nécessaires? Est-ce que tout le monde peut oser entrer dans ce monde, ou est-ce que c'est ça doit être réservé aux talentueux, aux créateurs, à ceux qui disent vraiment quelque chose qu'ils ont ressenti comme une nécessité de respirer et non pas quelque chose qu'ils ont entendu dans des émissions radio ou télé, qu'ils ont lu, tout ce que les médias nous envoient, qui saturent notre esprit, et que certains, pour la posture du poète, qui a du charisme, qui a du pouvoir, certains pourraient sont séduits par cette stature et veulent eux aussi faire ce qu'ils convoitent chez l'autre.
Mais oui, vous voyez, vous parliez de rhétorique, de prosodie, de forme poétique, ça fait partie de l'histoire de la poésie, mais la première chose à penser de la poésie, c'est d'abord qu'elle n'est pas réductible réduite à l'expérience européenne, par exemple, n'est-ce pas, à l'histoire de, à notre histoire à nous, elle est universelle et immémoriale, la poésie. Elle a connu mille et mille formes. Le dénominateur commun de toutes ces formes diverses de la poésie, vous savez, aussi bien en Afrique que chez les Inuits, que chez les Chinois, que, enfin, partout dans le monde, où il y a eu communauté humaine, il y a des poètes. Vous imaginez l'extraordinaire variété, diversité de formes. Donc il faut penser la poésie au-delà de cette diversité et voir quel est le dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est que la poésie, c'est toujours une autre langue dans la langue parlée par une communauté humaine. C'est toujours autre chose dans la langue. Ça fait entendre un autre rythme, un autre son. Et en fait, pourquoi cette autre langue dans la langue? C'est parce que la langue que nous utilisons tous d'ordinaire, quelle que soit la langue et quelle que soit la période historique, cette langue, elle est réductrice, elle est, comment je pourrais dire, elle est insuffisante, elle aplatit notre rapport à la réalité, parce que c'est une langue d'efficacité, de communication immédiate liée aux nécessités du quotidien, etc. Et cette langue-là, elle perd l'essentiel de ce qui est l'expérience humaine. Voilà ce que je crois. Donc on a inventé, quand je dis on, se fait exprès d'employer un terme général, les hommes, on va dire, ont inventé, des hommes et les femmes évidemment, j'entends les deux, hein, ont inventé cette autre manière de parler qui a l'ambition de prendre en compte un autre rapport à la réalité et une compréhension plus profonde, plus complexe et plus humaine, je veux dire, plus liée à notre expérience humaine de la poésie. À l'expérience humaine, je veux dire charnelle, incarnée, qui prend en compte l'immédiat du réel, mais qui prend en compte le souvenir, la mémoire, le désir, le rêve, tous les affects. Enfin, c'est une dimension beaucoup plus large de notre rapport à la réalité. Alors ça, c'est essentiel. Vous voyez que quand je dis ça, je définis la poésie autrement que comme une seule forme verbale différente. La poésie, c'est d'abord, parce que ce qui motive cette forme verbale différente, je viens de le dire, c'est un autre rapport à la réalité. Et ça, cette manière d'être ou d'habiter le monde, de s'habiter soi-même, comme dit le poète Georges Perrault, ce qu'on appelle poésie, ça c'est partageable par tous. Non seulement tout le monde peut... Mais tout le monde a en lui, chacun d'entre nous a en lui cette part consubstantielle, essentielle de son être qui est poétique, qui est un autre rapport à la réalité, plus exigeant, plus dense, plus ouvert, plus curieux, plus étonné, plus actif, je voudrais dire même. C'est de l'ordre de l'ardeur et de la ferveur, autant que de la compréhension extrêmement lucide des abîmes du réel. Donc cette posture-là, comme vous disiez, vous parliez de stature ou de posture, ou on va dire de manière d'être, cet état de poésie, nous pouvons tous le faire vivre en nous. Le problème, c'est que c'est complètement marginalisé et, je l'ai dit, dévalorisé, parce qu'on prend plutôt la poésie comme un ornement, un enjoliveur, etc. Alors que non, c'est au cœur de l'humain. Et donc moi, ma conviction, c'est que la poésie doit être partagée par tous, que chacun peut faire revivre en lui cette part poétique, et que si l'homme, les hommes en général, l'humanité en général, n'avait pas oublié ce diapason, je parlais de diapason tout à l'heure, ce diapason poétique, il est absolument certain que l'aventure humaine aurait, à mon sens, un destin plus favorable et plus heureux. Parce que comme on oublie, on fait l'inverse de ce que je dis, comme on oublie la part poétique et qu'on la réprime, alors on est complètement livré à cette part du réel qui exige de nous simplement d'être des outils, d'être des objets de production, etc., à un pragmatisme accablant. Et donc, on perd notre humanité, tout simplement, quand on perd la poésie. Voilà, en quelques mots, bien sûr, c'est complexe, mais j'ai écrit des essais, Petit éloge de la poésie, vous savez, on en avait parlé ensemble.
Oui, bien sûr.
Où j'essaie de dire ça un peu mieux que je puis le dire là, devant vous.
Alors, un poème serait comme une flamme, elle monte et puis elle baisse, elle peut s'éteindre. Chaque poème est un aveu d'échec, c'est-à-dire je veux dire ce que je dis, puis après c'est en deçà de cette exaltation ou de cette agonie que je reçois, que je ressens, et j'écris donc un autre poème. C'est ce qui fait que la vitalité de la poésie, c'est son incapacité à se dire à chaque moment.
La poésie a un vœu d'absolu. C'est-à-dire que quand on écrit un poème, et tous ceux qui écrivent de la poésie, ils essaient de dire ce que vous avez formulé, c'est-à-dire de dire l'intensité de la vie, de dire l'absolu de la vie. C'est vrai de tous les poètes, de Victor Hugo, aussi bien qu'Antonin Artaud, de René Char, ou de Pablo Neruda, ou de Jean de la Croix. Tout poète cherche à dire cet absolu de la vie. Alors évidemment, notre langue, la langue qu'on utilise, qui est l'instrument du poète, elle est désespérément insuffisante pour dire cette incandescence, cette ferveur d'être que le poète toujours postule. Alors, il faut sans cesse recommencer. Mais je crois que chaque poème, et dans la grande tradition humaine, il y a tellement de beaux poèmes, aussi bien, et de poèmes de ferveur, justement, et d'ardeur, aussi bien, je le dis, Rumi, par exemple, le persan, que, je sais pas, moi, on pourrait parler de Machado, l'espagnol, j'essaie de prendre des exemples un peu partout, si vous voulez, ou Emily Dickinson, dans son sud-américain, ou mon ami Israël Eliraz, poète israélien, ou je sais pas, Mahmoud Darwish, le poète palestinien, tous ces gens-là, quand on lit un de leurs poèmes, on excède tout ce qui nous sépare et nous divise, et on retrouve une sorte de consonance profonde à cet absolu de la vie, c'est-à-dire là où l'humain est au sommet de lui-même et où on se retrouve tous co-humains, si je puis dire. En cela, la lecture d'un poème nous refait rejoindre notre humanité la plus juste et la plus belle, celle dans laquelle justement se fonderait une fraternité universelle, à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui, où on est évidemment chacun d'entre nous renvoyé à notre individu frileux, inquiet, perdu, enfin je veux dire, c'est cette mauvaise pensée qui hélas se répand et qui envoie chacun à des particularités, à des choix très, très, comment je pourrais dire, communautaristes, comme on dit, etc. Et moi, je me sens en tant que poète, frère de tous les humains. Et c'est la poésie qui, sans faire de discours, simplement par la parole poétique, qui me fait rejoindre cette co-humanité, si vous voulez, cette vie profonde. C'est pour ça que le poète est un professeur d'espérance, y compris dans les temps les plus effroyables, n'est-ce pas ? Vous savez, on pourrait dire, la question, vous me l'aviez posée avant qu'on se parle à l'antenne, qu'est-ce que peut la poésie dans le temps actuel, celui où nous parlons avec toute cette... La maison qui brûle, voilà. Eh bien, je crois qu'elle peut, l'essentiel, elle peut être ce diapason absolu d'humanité qui résiste, qui est la vie subsistante, si vous voulez. Voyez, regardez, Primo Levi lisait Dante à Auschwitz. Je l'écris dans un des poèmes de l'avenir. C'est pas pour rien. Je veux dire que là où l'humain est le plus abîmé, le plus nié, le plus dévasté, c'est la poésie qui tient... qui, à mon avis, qui tient haut la flamme de l'humanité. Voilà pourquoi on a besoin de la poésie. Et voilà pourquoi dans les temps les plus périlleux, les plus violents, les plus anti-humains, c'est à la poésie qu'on revient. Et c'est très, très frappant, n'est-ce pas, dans tous les moments de grands drames, de grandes douleurs. Dans les camps nazis, on le sait bien, la poésie, tellement l'on dit, je veux dire, Semprin et d'autres, bien sûr Primo Levi, tout le monde a témoigné de ça, c'est-à-dire de comment la poésie était, c'est complètement paradoxal, hein, dans un lieu où la préoccupation première était simplement la survie physique à chaque instant, eh bien, comment on avait recours à la poésie ? Parce que la poésie réanime en nous la flamme d'humanité. Et ça, l'œuvre de destruction des nazis ou toute œuvre inhumaine, toute action inhumaine, perd la partie, au fond. On est d'autant plus humain qu'on rejoint par le poème le plus haut de l'humain.
Comme la musique, d'ailleurs, qui est moins incarné que la poésie, puisque dans la poésie, chacun dit sa musique intérieure, son ressentiment, son amour, son agonie, comme je disais, ou son exaltation.
Oui.
La musique est moins précise et permet à chacun de voguer sur son propre influx nerveux à travers ces notes de musique. Mais ça ne veut pas dire la poésie, c'est vraiment très, 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 très... comment dit-on, bienveillant pour l'être humain et puis son ressenti. Maintenant, présentons votre livre à venir avec un S.
Oui. Alors le S, évidemment, beaucoup de gens m'ont interrogé, mais en fait, justement, c'est parce qu'il y a un S que le titre retient l'attention. Vous voyez ? Et qu'est-ce que font les poètes ? Ils essaient de redonner un regard que nous avions perdu, nous sommes distraits et désinvoltes devant les mots, de redonner un regard plus vif sur un mot qui appartient à notre histoire, à notre inconscient collectif, etc. En mettant ce S à venir, tout d'un coup, la question se repose. De quoi on parle, vous voyez, vraiment. Parce que le mot avenir est devenu un cliché. Vous savez, il y a des avenues de l'avenir, des rues de l'avenir dans toutes les villes. L'avenir tel qu'on l'a pensé depuis des millénaires, pas seulement des siècles, était une chose, une ligne droite au fond, qui aboutit peut-être à ce qu'on appelle l'éternité. L'avenir étant dans la plupart des pensées, qu'elles soient européennes ou ailleurs, étant une chose certaine et assurée, voilà, on a vécu longtemps dans cette certitude. Or, moi, je dis qu'aujourd'hui, la question est beaucoup plus complexe. La preuve, c'est que nous savons, par exemple, depuis peu, en fait, depuis quelques décennies, que la Terre est, quoi que nous fassions, nous, on peut accélérer ou pas la fin de la Terre, mais la Terre est mortelle. C'est-à-dire que des physiciens nous disent que quoi qu'on fasse, l'avenir aboutit à la disparition de la Terre. C'est-à-dire que dans quelques 2 milliards et demi d'années, on peut changer de 500 millions d'années, mais ça ne change pas grand-chose au fond, eh bien, de toute façon, la Terre disparaîtra, puisqu'elle sera avalée mécaniquement par le Soleil, d'après ce que me disent les astrophysiciens. Donc, quand on prend conscience de ça, et je crois que l'humanité en prend conscience petit à petit, ça change beaucoup les perspectives, n'est-ce pas ? Alors moi, j'ai simplement voulu dire que il faut repenser les choses avec cette idée de notre finitude beaucoup plus certaine, n'est-ce pas ? Et donc, il y a plusieurs avenirs possibles, on le sait. Je veux dire qu'il n'y a pas un avenir tout tracé. Il y a, mais ça a été dit quand même d'autres fois, qu'il y a plusieurs façons de penser l'avenir, ou en tout cas de le préparer. Et nous sommes, nous, simplement aujourd'hui devant au moins une alternative. Il y a au moins deux avenirs assez probables. Soit la disparition rapide et immédiate de l'humanité, il faut le dire avec sévérité comme c'est, parce qu'il y a un moment on ne peut pas se mentir. Soit on fait ce qu'il faut pour que cette disparition ne soit simplement celle qui est naturelle plus tard. C'est-à-dire que l'humanité, notamment au-delà de la planète, continue son avancée, son chemin. Et je dis dans le petit texte d'introduction, pour expliquer ce que je suis en train de dire maladroitement, que nous avons le choix entre le renoncement, et c'est bien malheureusement ce qui domine aujourd'hui. Le renoncement, c'est le refus du neuf, de l'inconnu, c'est une lâcheté, c'est laisser faire les choses, une passivité. Et donc c'est se renfermer dans une sorte de jouissance cynique ou défaite. Ou alors le courage de l'impossible. Et je crois que la poésie depuis toujours est le nom de ça, le courage de l'impossible. Et c'est-à-dire que, au fond, il s'agit de dire que quoi qu'il en soit, il y a de l'espoir. Quoi qu'il en soit, on peut se dresser. On peut, chacun d'entre nous a la responsabilité d'agir pour un avenir qui serait vivable, déjà avant de parler de meilleur, qui serait vivable. Donc moi, je crois beaucoup à cet effort de conscience que chacun peut se contraindre à faire, et que plus on sera nombreux à partager cet effort de conscience, plus la conscience collective sera ouverte et dynamique. Donc il n'y a pas une fatalité à la défaite, à l'effondrement. Je crois que à l'intérieur du noir, il y a toujours une lumière. Voilà ce que j'essaie de dire dans ce livre. Et parce que ce livre, il part d'un constat assez sévère. Je dis des choses, effectivement, mais je suis traversé par le réel comme vous, par les guerres, les violences, tous les massacres, tous les sur l'ensemble de notre planète, n'est-ce pas? Donc j'essaie de dire avec sévérité ce que je ressens, c'est-à-dire ma colère contre ce que l'homme fait à l'homme, n'est-ce pas? Et puis en même temps, d'inventer, de chercher les moyens, et la poésie m'aide à lire ça, à dire ça, des moyens d'un espoir, d'une sorte de ressaisissement, en quelque sorte, de la conscience, mais pas seulement par le discours. La poésie nous amène à vivre l'expérience de cet espoir. C'est ce que j'essaie de dire en chaque jour, en fait, dans le quotidien.
Alors vous le dites d'une façon magnifique que je retiens, la vie est une poignée de main. Eh bien écoutez, c'est ce lien qui nous console de la vie, qui nous semble parfois arbitraire, incompréhensible, difficile, périlleuse. Mais cette idée de trait d'union, c'est, je trouve, magnifique.
Vous savez, la poésie, je crois depuis toujours... franchement, c'est une affaire de lien. De lien avec l'invisible. La poésie a souvent été religieuse au début. Elle est incantation, elle est une sorte d'interpellation du mystère, elle est un appel vers le haut, une verticalité, on va dire. Elle sort l'humain de son assignation donc à l'immédiat et au mécanisme de surface dont je parlais. Donc la poésie a toujours été ce lien avec l'au-delà de notre conscience, ce qu'on peut appeler, donc je disais, le mystère ou l'invisible, etc. Mais elle est aussi un lien entre les humains. Elle a toujours été, puisque la poésie est par essence, et il n'y a pas un poème qui le contredit, est une sorte d'appel, d'interpellation. Elle est une adresse, comme on dit au sens propre, une adresse. On s'adresse à l'ami inconnu, comme disait Jules Supervielle. Tout poème, c'est une parole adressée à l'autre. Et c'est pas qu'une parole pour soi, n'est-ce pas? Ou si la poésie est une parole pour soi, à mon avis, elle est vaine. Elle est toujours une adresse à l'autre. Donc elle est le début, chaque poème est le début d'une conversation souveraine, pour reprendre l'expression de René Char, une conversation souveraine entre le poète et ses lecteurs, et entre les lecteurs eux-mêmes, puisque tout le monde se redit tel ou tel poème, tout le monde se fait chanter en lui, par le poème, cette communauté dans laquelle idéale dans laquelle nous devrions être, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que moi j'ai écrit La vie est une poignée de main en résonance avec le poème de Paul Celan. Vous connaissez ce magnifique poète, oui, évidemment, qui dit il n'y a pas de différence de principe entre un poème et une poignée de main. J'ai dit, le poème étant la vie, étant une parole, le poème est une poignée de main et la vie est une poignée de main. La vie devrait être pensée comme une perpétuelle main tendue, voilà, à toutes les beautés du monde, à toutes les détresses du monde. C'est-à-dire, c'est la main qui se tend à celui qui est tombé, c'est la main qui se tend à la beauté du paysage, à la beauté d'un amour, à la beauté de l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette façon de sortir de soi et d'être attentif à l'autre, d'être généreusement porté vers l'autre. Vous voyez bien que ce que je dis, voilà ce que je crois de la poésie, vous voyez bien que c'est à l'envers de tout ce que nous vivons aujourd'hui, qui est rétrécissement, repli, peur de l'autre, etc. C'est pour ça que la poésie est utile, nécessaire aujourd'hui, urgente, puisqu'elle est une objection majeure à cette mauvaise lèpre de la pensée qui gagne partout.
Alors, votre livre, Avenir, est très intéressant, très agréable, en ce sens que je dis, non seulement il y a les images tellement bien maîtrisées, tellement dessinées de façon virtuose, mais il y a ce récit, on comprend ce que vous dites, il y a la ligne du récit à travers vos lignes, et ça c'est très agréable, très apaisant pour un lecteur de poésie. Est-ce qu'il y a un noyau de prose dans votre poésie? Voilà la question.
Ah oui, parce que effectivement, au cœur de ce livre, j'ai mis des petits textes en prose. Au fond, la poésie est aussi une manière de la penser. Je l'avais dit d'ailleurs dans le livre Une poésie, une théorie de l'amour, le livre d'avant, qui était une pensée de l'amour à travers le poème. Les poètes ne sont pas que des gens du sentiment, comme on les réduit trop souvent à ça. Ce sont comme disait le Rainer Maria Rilke, les poèmes ce sont des expériences, et les poètes sont simplement les témoins de l'expérience humaine. Et donc, vous voyez, la poésie pense aussi, et j'ai voulu, à l'intérieur de mes poèmes, mettre une partie, mais qui est purement poétique aussi, puisque ce sont des proses, mais des proses poèmes, n'est-ce pas ? Mais c'est plus de la pensée sur l'état du monde aujourd'hui et ce que peut la poésie. Dans exactement la question que vous me posez, et ben voilà, j'essaie de la traiter dans cette partie qui s'intitule Horizon Poésie. Alors, vous voyez, la prose, je l'ai utilisée dans ma vie, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit plein de choses, des essais, mais j'essaie toujours que la prose, quand je l'utilise comme moyen, soit, c'est surtout plutôt pour le but de la pensée, si vous voulez, mais qu'elle reste poétique. Je pense qu'une pensée juste est une pensée qui est agie par le cœur aussi, par la sensibilité. Et je pense que les pensées qui nous gouvernent ont perdu cette part-là, vous voyez. C'est pour ça qu'elles sont froides, elles sont à distance, elles sont sans doute sûres d'elles-mêmes et savantes, mais elles ont perdu ce tremblement de l'humain, on le dit souvent. Et donc, j'essaie de proposer une prose, une pensée sur le monde d'aujourd'hui qui soit autre chose que le bulletin d'information ou le discours politique tel qu'on l'entend généralement. C'est-à-dire qui parle du monde, oui, qui parle des violences de l'homme à l'homme, qui parle des guerres et qui fasse entendre un autre comment en sortir, un espoir. C'est ma responsabilité de citoyen et d'être humain de penser à ça aujourd'hui. Et j'essaie de le faire dans une langue qui soit proche des gens et qui soit pas seulement de la pensée abstraite, je crois que c'est réducteur, et donc qu'il soit une pensée émue, en quelque sorte, qu'il soit une pensée vivante, qu'il soit une pensée que les gens trouvent proche aussi bien de leur cœur que de leur tête, vous voyez.
Alors, je rebondis sur cette idée de pensée vivante, puisqu'il y a la scansion dans votre livre « Avenir » qui explique tous ces « S », d'avenir, puisque vous dédiez certaines fractions du livre à des personnes. Il y a une partie qui est dédiée à Françoise Lasserre, une autre à Karine Thuil, une autre à Véronique. Pourquoi, comment ce lien entre le poème et la personne ?
Oui, ce sont des interlocuteurs de ma vie. Donc c'est un signe comme ça, mais Karine Tuit, on a de très nombreuses conversations, un lien très profond à travers la poésie. Vous savez qu'elle a écrit ce magnifique Kaddish pour un amour que vous avez lu, j'imagine. Et c'est Karine d'ailleurs qui m'a suggéré vous savez, la citation du livre de Hillel, vous voyez ?
Oui, Hillel, oui.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est elle qui m'a parlé de cette citation en lisant des poèmes. Je lui ai fait lire des poèmes avant qu'ils soient publiés. Et on a eu une conversation. Elle m'a dit, tiens, Jean-Pierre, ça me fait penser à cette maxime qui m'a habité depuis longtemps. Et je l'ai trouvé tellement éclairant, tellement vrai, tellement juste, que je l'ai mise au début du livre. Et donc, avec Karine, je trouvais qu'il était juste qu'à un moment ou un autre, je lui fasse comme un merci en lui dédiant un poème. Voilà l'histoire de cette dédicace-là. Elles ont toute une histoire, ces dédicaces. Hein. Mm-hmm. Véronique, c'est pour les poèmes d'amour, et moi, je vis avec elle l'amour au plus beau, afin donc que je le dis, tout simplement. Mm-hmm. Vous voyez. Alors, voilà. Et Françoise Lasserre, c'est parce que la partie qui s'intitule « Soyons un chant » a été écrite à sa demande. Françoise Lasserre est la directrice de musicale d'un grand ensemble Academia, qui est spécialiste de musique baroque. Si vous ne connaissez pas leur travail, il faut le connaître, il est magnifique. On parlait de la musique tout à l'heure, mais vous savez, pour moi, musique, peinture, danse, poème, tout ça relève du même enjeu. Alors voilà, Françoise m'avait demandé d'écrire ces textes, et donc je lui ai dédié pour la remercier aussi, parce que voilà, ces textes sont nés de son appel, de sa demande. La poésie est toujours, je vous l'ai dit, un dialogue, une conversation. Après, des tels ou tels poèmes est dédié à telle ou telle personne. Il y en a un qui est dédié à Anouk Grimbert, voilà, la comédienne que vous connaissez. Mmh. Et c'est simplement parce que c'est des rapports d'amitié. Et c'était comme pour leur dire merci. Mmh. Voilà, de dialogue, de conversation, d'échange autour de la poésie. Mais évidemment, ces poèmes-là, fussent-ils dédiés à telle ou telle personne, ils sont évidemment offerts à tous.
Alors, rendre à Hillel ce qui appartient à Hillel. Avec votre permission, je vais lire cette phrase que vous mettiez en exergue de votre livre.
Oui.
Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Peut-être que c'est dédié aux femmes.
C'est bien sûr, hein. Quand on disait les hommes, vous savez, dans la grande tradition de notre langue, on parle des hommes et des femmes, hein. On parle de l'humain. Et nous sommes là, au-delà des genres, des différences de genre, d'âge, de toutes les particularités. Moi, je continue à dire les hommes, et ça inclut évidemment l'humanité entière. Hein. Et je crois que là, bien sûr, dans la citation que vous donnez de Hillel, il parle des hommes et des femmes.
Bien sûr. Mais je voulais dire que par rapport à l'incarnation de notre temps, peut-être qu'on pourrait donner cette interprétation aux femmes. Elles n'en ont pas besoin, mais peut-être quand même ça pourrait être une focalisation d'esprit à travers votre livre de poèmes.
Peut-être, ça je vous en laisse juger. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que la lecture de la poésie, elle appartenait au lecteur. Le poète ne fait que proposer sa parole. Hein. Alors c'est une parole toujours, comme elle est poétique, c'est pas une parole univoque. Elle porte en elle 1000 sens possibles, et ces sens que chaque lecteur va inventer en le lisant. Je dis que le poème appartient toujours à qui le rend meilleur, et qui le rend meilleur, le lecteur. Voilà ce que je pense.
Alors, vous remerciez beaucoup pour pour vos explications très claires et très sincères. Votre livre brillant et vivant, dont le titre est « Avenir au pluriel », suivi par « Le peintre au coquelicot ». Et ça paraît chez Gallimard. Et disons que vous êtes le directeur de collection de la poésie Gallimard. Une petite parenthèse, est-ce que vous avez fait durant votre... ça fait déjà quelques années, vous avez fait des découvertes intéressantes comme auteur que vous publiez?
Ah oui, regardez, j'ai publié, comme je parle à Radio Judaïka, j'ai publié des poèmes de Nelly Sachs qui n'étaient pas dans cette collection, qui sont magnifiques, absolument magnifiques. Je vous incite à les lire. Exode et Métamorphose, c'est un ensemble de poèmes de Nelly Sachs. Mais aussi, j'ai découvert Nikoïtski. Vous savez, Nikoïtski était une romancière qui est plutôt connue dans les années 70-80, qui a fait du théâtre avec Daniel Mesquich. Et Nikoïtski a écrit un seul livre de poèmes en judéo-espagnol, parce que c'était la langue de sa famille, de sa mère, etc. Une jeune femme qui a tombé là-dessus, l'a traduit en français et me l'a envoyé. Et j'ai dit, c'est formidable. La collection, elle doit aussi porter. Ces langues qui sont peut-être menacées. Et le judéo-espagnol porte une longue histoire. Elle porte la mémoire de peuples en transhumance, n'est-ce pas?
Les Maranes.
Oui, voilà. Et donc, je me suis dit, elle a écrit ce seul livre. Il est beau, bien sûr. C'est peut-être pas la poésie du siècle, mais ça permet de saluer son geste, qui est magnifique, et puis ensuite de faire lire le judéo-espagnol, c'est-à-dire qu'on l'a mis en bilingue, et comme ça, entre dans la collection la langue judéo-espagnole. Voilà des découvertes, vous voyez, des choses qui me passionnent. Oh, j'ai publié aussi, vous savez, j'ai publié Antoinette Desoulières. Antoinette Desoulières était une femme poète du XVIIe siècle. Écoutez, ce qui est invraisemblable, c'est qu'elle était à l'époque aussi connue, sous Louis XIV, aussi connue que Yourcenar ou Dueras à notre temps. Quoi. C'était une femme de lettres extraordinairement célèbre, qui fréquentait la cour et qui était l'amie de très grands, de Jean de La Fontaine et de gens comme ça. Or, regardez, pendant des siècles, sa poésie a disparu. Et il y a quelqu'un, une universitaire qui travaillait sur elle, sur sa poésie, et qui m'a envoyé un jour ses poèmes en disant « c'est pas juste ». Et j'ai lu, et j'ai dit « oui, c'est vrai, c'est pas juste ». parfois il y a des oublis qui sont justes, celui-là est injuste. Et donc c'est aussi une manière de relire le répertoire en voyant les oublis. J'ai publié Christine de Pizan qui n'était pas dans la collection, et on la vend beaucoup, hein, Christine de Pizan, on en a vendu, je sais pas, 8000 exemplaires, ce qui est beaucoup, vous voyez, pour cette poésie ancienne. Et donc j'ai fait cette... je crois que cette justice, j'ai rendu cette justice à beaucoup de femmes qui n'étaient pas encore dans la collection et qui sont entrées. J'en ai fait rentrer, je crois, peut-être 16 ou 17 depuis que je suis à la tête de la collection, pour tenir compte non pas de l'air du temps, c'est pas ça, mais il y a une vérité quand même dans la prise de conscience actuelle. La vérité, c'est le fait qu'il y a eu un regard sur le patrimoine littéraire, un regard, on va dire, machiste, pour faire simple, et qu'il y a eu des omissions scandaleuses. Et donc, en tout cas, tout à fait injustifiées. Donc, j'essaie, à mon niveau, là où je travaille, de redonner voix et présence à ces belles poétesses oubliées.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Siméon. Alors, je rappelle le livre dont vous venez de nous parler, « À venir » avec un S, suivi de « Le peintre au coquelicot ». Ce sont des poèmes et ça paraît aux éditions Gallimard. Ce fut très, très passionnant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. Ah.